Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Au Togo, après les législatives d'avril, le parti présidentiel Unir vient de remporter les premières sénatoriales de l'histoire du pays. Un succès qui ouvre la voie à l'élection de Faure Gnassingbé comme président du Conseil. En clair, c'est lui qui détiendra le pouvoir exécutif. Le président de la République n'aura plus qu'un rôle honorifique. Les autorités actuelles parlent de nouvelles démocraties plus représentatives, participative. L'opposition, elle, dénonce une manœuvre pour permettre à Faure Gnassingbé de rester indéfiniment au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Que vous inspire le nouveau futur régime parlementaire? On vous attend au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité. La rédaction de RFI et des experts vous répondent. On commence par le Ghana avec une enquête ouverte après la découverte de salariés fantômes au service national. Kodjo, bonjour.
Bonjour Chantal Leroux. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. À mes côtés en studio, Wely Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Kodjo, on vous écoute, vous avez la parole.
Oui, les autorités ghanéennes ont découvert que la moitié du personnel au service national était des non-fantômes. Comment expliquer un tel phénomène?
Wely.
Eh bien, tout est parti d'une opération de gestion des arriérés de paiement. Sous l'ancienne présidence, l'autorité nationale avait dénombré 180 000 personnes au sein de l'organisation. Mais après inspection par les services du président Mahama, il n'y a finalement que 98 000 vrais membres du personnel répertorié. Donc près de la moitié des noms enregistrés à l'ASN sont des non-fantômes. L'enquête devra alors clarifier le montant des paiements émis pour ces noms-là et les personnes à l'origine de la manœuvre. Selon la présidence, le ministère des Finances a débloqué 126 millions de Ghana Cedi, environ 14 millions de dollars, pour rembourser les arriérés de paiement des vrais fonctionnaires. Le directeur de l'agence a annoncé qu'ils recevront ce remboursement dans les jours à venir.
Récemment, une autre histoire de corruption a également fait parler du Ghana.
Oui, cette fois, c'est l'ancien ministre des Finances ghanéen, Ken Oforiatta, qui est accusé de corruption et de gestion financière frauduleuse. Selon le bureau du procureur général, l'ancien ministre aurait permis l'utilisation de fonds publics pour le projet controversé de construction d'une imposante cathédrale nationale. C'était une idée de l'ancien président, Nana Akufo-Addo, qui avait imaginé cette cathédrale comme une offrande à Dieu après sa victoire à la présidentielle de 2016. Elle devait être financée par des fonds privés, mais après enquête, il s'est avéré que 58 millions de dollars de deniers publics ont été détournés pour sa construction, dont une partie grâce à l'aide de l'ancien ministre des Finances qui a quitté le pays entre-temps.
Kodjo, vous avez une autre question pour Wely Diallo?
Oui, justement. Quelles mesures les autorités comptent-elles mettre en place pour lutter contre ce fléau de fonctionnaires fictifs?
Wely.
Eh bien, la lutte contre la corruption, c'est l'une des principales promesses de John Dramani Mahama. Dès décembre, avant même son investiture officielle, il avait lancé un groupe de travail chargé de retrouver tous les fonds publics détournés dans le pays au cours des dernières années. Objectif, récupérer les sommes d'argent et les objets issus de la corruption et demander des comptes aux responsables. C'est une initiative qui avait été bien accueillie par la population, largement agacée par les détournements de fonds. Au mois de septembre, plusieurs membres de la société civile et de l'opposition à l'ancien régime avaient manifesté devant le ministère des Finances en accusant le gouvernement de mauvaise gestion financière flagrante.
Le Ghana était considéré comme un modèle en Afrique de l'Ouest. Sa situation économique s'est terriblement dégradée ces dernières années. Le pays fait face, Wely, à l'une des pires crises économiques de son histoire.
Eh bien, entre crise du Covid et la guerre en Ukraine, le Ghana fait face à une crise économique majeure depuis l'été 2022. L'inflation avait dépassé les 54% à l'époque. Dans la même période, le cédi ghanéen a perdu 30% de sa valeur, ce qui a entraîné un épuisement des réserves en devises du pays, sans oublier le cacao, qui représente 10% du PIB du pays et qui a connu une mauvaise récolte l'année dernière, due en partie aux mauvaises conditions météorologiques, mais aussi à l'orpaillage illégal, qui pollue les sols des rivières et menace les cacaoyères et donc l'économie du pays. Face à l'endettement excessif du Ghana, le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine africaine de développement lui ont accordé des prêts pour relancer son économie. Entre-temps, l'inflation est retombée, mais aussi toujours entre 20 et 30%.
Merci beaucoup, Willy Diallo, pour ces explications. À bientôt sur l'antenne. Kodjo, bonne journée à Lomé et restez à l'écoute. Hein. On va débattre dans 20 minutes à peu près de la situation politique dans votre pays, le Togo, qui devient un régime parlementaire. Polémique en Argentine après la promotion par Javier Milei, le président, d'une crypto-monnaie douteuse. Donald, bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors, on est toujours au Togo puisque vous nous appelez de Lomé. En ligne avec nous, Grégory Raymond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du média numérique The Big Whale et auteur de Bitcoin Crypto, l'enjeu du siècle, publié aux éditions Talent en 2025. Donald, on vous écoute.
Ok. En Argentine, le président Javier Milei a fait la promotion d'une crypto-monnaie, mais sa valeur s'est ensuite effondrée. Que sait-on de cette crypto-monnaie appelée Libra? Pourquoi parle-t-on d'une anax?
Alors Grégory Raymond, ce jeton hein, Libra était totalement inconnu avant que le président argentin n'en fasse la promotion sur X, anciennement Twitter.
C'est un projet qui a été créé il y a à peine quelques jours en fait, et c'est un meme coin. Et un meme coin en fait, c'est une crypto-monnaie qui est purement spéculative, hein, qui repose uniquement sur l'attention qu'elle suscite et éventuellement sur la force de sa communauté. Ces projets n'ont aucun fondamentaux solide, hein, comme Bitcoin ou Ethereum, et ils peuvent être vus comme une sorte de financiarisation de l'économie de l'attention, donc ce qui explique leur durée de vie souvent éphémère, donc ce n'est pas sérieux. Mais là, on peut clairement parler d'une arnaque en plus de tout ça. Hein.
Mais alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en quelques heures sur le marché des crypto-monnaies?
Alors en fait, la crypto-monnaie Libra a suscité assez rapidement de nombreuses accusations de fraude. Après qu'on ait découvert un schéma typique de pump and dump, en gros, c'est que tout était fait pour faire monter le prix très haut, très rapidement, pour que certains insiders, donc des gens qui étaient au courant de l'opération avant qu'elle se produise, puissent vendre très rapidement au moment où le grand public le découvrait, et c'est-à-dire au moment où Javier Milei en a fait la promotion sur X. Donc ce même coin a brièvement atteint une capitalisation de plus de 4 milliards de dollars, hein, donc c'est vraiment énorme, mais son cours s'est effondré de 95% quelques heures après, à la suite d'importantes ventes effectuées par donc ses investisseurs qui avaient bénéficié donc d'un accès anticipé dans ce projet. Il y a même une personne hier qui fait partie du projet qui a admis avoir gagné 100 millions de dollars dans cette opération. Donc crypto ou pas, en fait, ça s'appelle un délit d'initié, hein, c'est un crime financier. Et le président Javier Milei, qu'il ait été manipulé ou pas pour en faire la promotion de ce projet, parce qu'il a supprimé son tweet après, hein, mais il pourrait être poursuivi notamment aux États-Unis. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce projet Libra, en fait, on est en train de voir qu'il y a des liens avec d'autres fraudes. Donc en inspectant la blockchain, hein, car toutes les transactions, elles sont traçables, hein, tout est public, on peut tout regarder, on a compris que Libra et Melania, un autre meme coin qui avait été lancé fin janvier et qui était un peu lié à Melania Trump, sans qu'elle ait vraiment endossé le projet, ces projets avaient été créés par la même équipe. Et en fait, selon nos sources, cette équipe ne comptait pas s'arrêter là. Et un projet similaire à Libra, qui embarquait le gouvernement du Nigeria, était aussi dans les cartons. Donc on est là, en fait, sur un système un peu global d'arnaque aux crypto-monnaies.
Alors Grégory Raymond, comment savoir, d'une manière générale, si une nouvelle crypto-monnaie est une arnaque ou pas?
Je pense qu'il est déjà vraiment important de dissocier que ces arnaques sont vraiment très, très différentes de Bitcoin ou Ethereum, qui ont démontré leur pertinence depuis des années. Mais en fait, quand on vous promet de devenir riche très rapidement et très facilement, souvent c'est qu'il y a une arnaque. Et quand une crypto-monnaie repose simplement sur le nom de quelqu'un, sur une célébrité, sur une personnalité politique, il faut fuir. Il faut fuir. Malheureusement, on ne peut pas empêcher des petits malins d'essayer de profiter d'investisseurs crédules, mais ça doit pousser tout le monde à être très, très vigilant. Et quand on veut investir quelque part, que ce soit une action d'entreprise ou une crypto-monnaie, il faut étudier, il faut savoir ce qu'il y a derrière.
Merci beaucoup, Grégory Raymond, d'avoir répondu à nos questions. Donald, j'espère qu'on a répondu aussi à vos interrogations. Bonne journée à vous. Jimmy, bonjour.
Bonjour Chantal, bienvenue à Bounia.
Ah oui, puisque vous nous appelez de Bounia en RDC. En ligne avec nous, Guillaume Fabry, correspondant de RFI à Madagascar. Bonjour Guillaume.
Bonjour Chantal.
Jimmy, on vous écoute.
Ah oui, dès l'entame, je voudrais saluer l'équipe d'Affaires Sexualités. Ça n'a pas été facile de nous relier à vous. Ah. J'ai entendu que la fabrication à Madagascar, l'armée française, suscite beaucoup de critiques. Pourquoi cette fabrication va-t-elle se faire sur l'île?
Alors, la ligne est entrecoupée, Jimmy, donc je vais répéter votre question. La fabrication d'uniformes à Madagascar pour l'armée française a suscité beaucoup de critiques récemment. Pourquoi une partie de cette fabrication va-t-elle se faire sur l'île? Guillaume Fabry.
Alors Jimmy, la fabrication va être réalisée par un groupe industriel français, Paul Boyer Technologies, dont une partie de la production est en effet délocalisée à Madagascar via une filiale. Ce groupe a été retenu à l'issue d'un appel d'offres lancé par le ministère français des armées. Deux grands critères ont été pris en compte, le prix de l'offre et la qualité des produits proposés. Ce marché consiste notamment à équiper pendant 5 ans les nouvelles recrues de l'armée française, soit 125 000 soldats.
Si on regarde d'abord les prix, Guillaume, pourquoi l'offre du groupe était-elle plus intéressante?
Le groupe affiche des prix attractifs car il délocalise une partie de sa production à Madagascar et le coût du travail y est nettement inférieur à celui de la France. Le salaire mensuel minimum équivaut à 53 euros à Madagascar contre 1426 euros net en France, c'est-à-dire 27 fois plus. D'ailleurs, Jacques Boyer, le patron du groupe, ne s'en cache pas. Quand son entreprise a ouvert une première usine à Antananarivo en 1992, elle cherchait à gagner en compétitivité face aux fabricants de Chine, du Sri Lanka ou encore du Bangladesh, dont le coût du travail était à peu près égal à celui de Madagascar. Depuis, le fabricant a ouvert 2 autres usines dans la capitale malgache où il emploie 1 millier de personnes au total. Ce mix entre production française et délocalisée est le seul modèle économique viable pour continuer à gagner des marchés, selon Jacques Boyer.
Et il a ajouté, hein, nous jouons le jeu de la mondialisation. Guillaume, en choisissant le groupe Paul Boyer, le ministère français des armées reconnaît-il aussi le savoir-faire malgache dans le domaine textile?
Oui, Madagascar a une longue tradition de la broderie et du tissage. Elle a grandi à une main-d'œuvre compétente. Les ouvriers malgaches jouent un rôle essentiel dans la fabrication des uniformes de l'armée française, puisqu'ils vont confectionner à Antananarivo les pièces en textile, pantalons et vestes avant qu'elles ne soient personnalisées et brodées en France. Le groupe Paul Boyer a l'intention d'ouvrir de nouvelles chaînes de production à Madagascar pour y fabriquer des uniformes à destination de toute l'Afrique.
Et le secteur du textile à Madagascar est-il rigoureux en matière d'environnement et de droit du travail?
Alors pour répondre à cette question, on peut déjà s'intéresser au code du travail malgache. Il dispose qu'un employé ne peut travailler plus de 40 heures par semaine. Il autorise par ailleurs le travail des mineurs à partir de l'âge de 15 ans, si cela ne nuit pas à leur santé. En 2022, une étude de l'Organisation internationale du travail s'est penchée sur le respect de ces dispositions. Elle montre que la présence d'enfants de moins de 15 ans sur les chaînes de fabrication textile est quasiment inexistante à Madagascar. Dans cette étude, l'agence de l'ONU montre également que les employeurs respectent la durée légale de travail dans 70% des cas, mais 43% des travailleurs du textile vivaient en 2022 dans une situation d'extrême pauvreté. À noter que cette étude ne concerne que le secteur formel qui emploie 200 000 personnes à Madagascar, essentiellement des femmes.
Et sur le plan environnemental ?
Et sur le plan environnemental, l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. En 2023, une étude a révélé la présence de chrome et de plomb dans les rizières d'Antananarivo qui provenaient directement des eaux usées rejetées par des usines textiles. Beaucoup de marques exigent aujourd'hui de leurs fournisseurs des certifications écologiques, ce qui inévitablement pousse les fabricants à rendre leur activité plus durable. Récemment, les autorités malgaches ont aussi présenté un plan pour encourager le secteur privé à protéger les ressources naturelles sans que cela ne s'accompagne de nouvelles réglementations contraignantes.
Merci beaucoup, Guillaume Fabry, pour ces précisions. Jimmy, désolé de ne pas vous avoir redonné la parole, mais la ligne était vraiment très compliquée avec Bounia. Je vous souhaite à tous les deux une bonne journée. On revient sur le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu le week-end dernier à Addis Abeba. Les pays du continent ont élu un successeur au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de la commission de l'UA s'achève le 15 mars prochain. Fodé, bonjour.
Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la grande radio Les Voix du Monde.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée. En ligne avec nous, Sédi Kaba, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à votre auditeur.
Vous êtes journaliste, essayiste et président du CIRES, le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Faudet, on vous écoute.
Ok. Mohamed Ali Issouf a été nommé à la tête de la Commission de l'Union africaine. Ma première question, qu'est-ce qui a favorisé l'élection du Djiboutien au détriment du Kenyan Raila Odinga, qui faisait pourtant figure de favori?
Alors, Sédhi Kaba, la compétition a été serrée jusqu'au bout. Il a fallu 7 tours de scrutin pour départager les deux hommes.
Oui, c'est tout à fait exact. La compétition a été très serrée. Et au final, c'est l'outsider qui l'a emporté, puisque Mohamed Ali Issouf était donné second challenger plutôt que favori. Et je crois que ce qui a joué le plus, c'est la qualité de sa campagne électorale. Il a mis en avant durant toute cette campagne son profil de technocrate qui parle 3 langues, le français, l'arabe et l'anglais, alors que son principal rival ne parle que l'anglais et il est 20 ans plus jeune que son principal rival. Il a mis tout cela en avant et ça a permis donc de faire une campagne électorale qui a été au final très gagnante.
Il a quel âge? 59 ans, c'est ça?
59 ans et Raila Odinga 79 ans ou 80 ans, s'il prend une image sur ses 80 ans. Donc il est relativement plus jeune que Odinga et il a mis en avant ce profil de technocrate alors que son rival était plutôt, avait un profil plutôt politique.
Faudet, vous avez une autre question pour Sédhi Kaba?
Oui, deuxième question, la dernière question. Quel est son parcours et quel est son projet pour l'Union africaine?
Sédhi.
Excellent. La question, Mohamed Ali Issouf a été pendant 20 ans, et c'est un record de longévité, ministre des Affaires étrangères de son pays de 2005 jusqu'à 2025, date de son élection. Il a occupé plusieurs fois les postes d'ambassadeur. C'est un diplomate de carrière, de formation et de profession. Et là, il a mis en avant pendant la campagne, s'il venait à être élu, donc à partir du 15 mars, il va prendre ses fonctions de président de la Commission de l'Union africaine et sa priorité sera naturellement la gestion des crises. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo, la crise au Soudan, la crise au Sahel, les crises sur le continent et la question essentielle de la gouvernance aussi, puisque on enregistre aujourd'hui un recul de la démocratie, particulièrement en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, des questions de longévité, des questions d'alternance. Il s'est engagé à s'occuper de ces questions et il y aura un autre défi important, c'est la question du financement de l'Union africaine, parce que comme vous savez, 80% des projets, même 90% des projets de l'Union africaine sont financés par des partenaires extérieurs. Le siège lui-même a été offert par la Chine. Donc il y a ce défi important de l'autofinancement de l'Union africaine. Donc ce sont ses principaux dossiers sur lesquels il va très vite s'occuper. Il n'aura même pas d'état de grâce, on peut dire.
Sur la question de la guerre dans l'Est de la RDC, quelle sera la ligne du nouveau président de la Commission africaine? Est-ce qu'on a une idée?
Je crois que là, pendant la période actuelle, l'Union africaine a laissé la main aux communautés économiques régionales, la communauté économique des États d'Afrique centrale et la communauté de développement d'Afrique australe. Elles ont même tenu, les deux communautés ont tenu un sommet ensemble, mais ça n'a pas marché. Donc l'Union africaine va devoir reprendre sous ce magistère-là le dossier à son niveau, au niveau de son Conseil de paix et de sécurité, pour qu'il puisse avoir un leadership africain sur cette question, parce que jusqu'ici, c'est les Nations Unies ou d'autres acteurs qui étaient en première ligne. Là, l'Union africaine va reprendre ce dossier et pouvoir faire avancer les choses. Sans doute, c'est qu'elle n'a pas réussi à ce sommet, faire rencontrer, faire asseoir dans la même salle le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame.
Il faut noter par ailleurs que l'Algérienne Selma Haddadi a quant à elle été élue au poste stratégique de vice-présidente de la Commission. Elle a obtenu la victoire avec 33 votes sur les deux autres candidates marocaines et égyptiennes. Merci beaucoup Sédhi Kaba d'avoir répondu à nos questions. Faudet, j'espère que votre curiosité est satisfaite. Bonne journée à tous les deux.